Bonjour. Nous continuons le voyage à travers les règles de discernement des esprits selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Nous en sommes au 6e épisode de cette série de 16 épisodes qui est l'adaptation française de la série d'entretiens en anglais « Le discernement des esprits, libération des captifs » du père Timothy Gallagher. Vous pouvez retrouver les entretiens en anglais sur la chaîne YouTube « Discerning Hearts ». C'est Isabelle Rebelle qui vous parle. Quatrième règle, de la désolation spirituelle. J'appelle désolation spirituelle le contraire de ce qui a été dit dans la troisième règle. Les ténèbres et le trouble de l'âme, l'inclination aux choses basses et terrestres, les diverses agitations et tentations qui la portent à la défiance et la laissent sans espérance et sans amour, triste, tiède, paresseuse et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Car, comme la consolation est opposée à la désolation, les pensées que produit l'une sont nécessairement contraires à celles qui naissent de l'autre. Nous entrons avec la quatrième règle dans le contenu le plus difficile du discernement des esprits basé sur les exercices de Saint Ignace. La dernière fois, nous avons étudié la troisième règle, qui traite de la consolation spirituelle. Dans le discernement des esprits, il y a toujours le bon et le mauvais esprit. Il faut donc s'attendre à ce qu'il y ait un pendant à la consolation. S'il y a des épisodes heureux et réconfortants dans notre vie spirituelle, quand nous sentons la proximité de Dieu, il y a aussi des périodes où nous ne la ressentons plus, où les choses deviennent plus pesantes, plus sombres, plus confuses. C'est d'ailleurs le point central de l'enseignement de Saint Ignace dans ses règles, nous aider à comprendre ces différents mouvements intérieurs pour non seulement ne pas en être affligé et blessé même parfois, mais aussi pour en sortir grandi. Il nomme ces temps sombres la désolation spirituelle. Même si c'est évidemment un sujet désagréable, c'est aussi un des sujets les plus utiles de l'enseignement de Saint Ignace. Sa discussion sur la désolation spirituelle et la manière d'y réagir est précieuse, car il est incontestable que pour la plupart d'entre nous, le principal obstacle sur le chemin spirituel est justement la désolation spirituelle. Nous nous décourageons, nous nous laissons abattre. C'est à ce moment-là que nous avons tendance à laisser tomber la prière, à nous retirer de nos engagements dans l'Église, à avoir du mal à rester fidèles à notre vocation dans l'amour. Donc c'est un enseignement qui permet encore une fois de mettre en pratique les trois grandes étapes du discernement, prendre conscience, comprendre et être capable de nommer, et finalement agir, c'est-à-dire ici, rejeter la désolation spirituelle. C'est le service le plus précieux que nous rende Saint Ignace. Et en fait, après la quatrième règle, l'essentiel de son enseignement, comme on le verra, porte sur la désolation et comment la rejeter efficacement. Vous avez écouté la règle. Maintenant, procédons comme pour les règles précédentes en commençant par un exemple. Et ensuite, nous retournerons au texte de la règle. Voici Alice. Elle est profondément attachée au Seigneur. Elle est sincèrement investie dans sa croissance spirituelle. Et elle est très engagée dans sa paroisse depuis plusieurs années. Elle aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle ressent beaucoup de joie auprès du Seigneur et dans son service. En deux mots, elle est en pleine consolation. Elle a récemment déménagé dans une nouvelle ville et a essayé de s'impliquer dans sa nouvelle paroisse. Mais elle trouve cela difficile pour toutes sortes de raisons. Et après un an d'efforts, Alice commence à se sentir découragée et abattue. Elle a l'impression d'avoir tout échoué. Elle est totalement désabusée. Ne nous sommes-nous pas tous retrouvés dans cet état d'esprit à un moment ou à un autre de notre vie ? Récemment, même dans ses temps de prière personnelle, Alice ressent un grand vide. Elle a l'impression d'être abandonnée de Dieu. Elle ne sent plus sa présence et elle est envahie par la frustration. Elle se demande si elle n'a pas tout simplement perdu la foi dans la tendresse attentionnée de Dieu. Elle continue quand même à aller fidèlement à la messe et à honorer ses temps de prière personnelle, mais tout lui semble futile et désespérant. C'est ce genre d'expérience que Saint Ignace décrit dans la quatrième règle. Alice reste fidèle, elle continue à prier, mais elle ne sent plus la présence de Dieu. Elle a même l'impression que Dieu s'est éloigné d'elle. Et même si elle s'accroche fidèlement, elle ressent du désespoir, un vide intérieur. La joie a disparu, remplacée par des ténèbres. C'est ce dont parle saint Ignace. Revenons au texte de la règle. Comme pour la troisième règle, il commence par une brève expression d'introduction, de la désolation spirituelle. Passons un peu de temps sur ces deux mots. Si la consolation est un mouvement d'élévation de l'âme, de joie, de paix, d'espoir, la désolation est un mouvement d'écrasement, de découragement, de tristesse, de désespoir, d'anxiété. Donc c'est un mouvement de lourdeur de l'âme. Mais Ignace parle de désolation spirituelle. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'il s'agit d'une lourdeur dans notre relation à Dieu, dans notre vie de foi, notre vie spirituelle. Si on revient à Alice, elle essaye de prier, mais elle ne sent plus la présence de Dieu. Clairement, nous sommes dans le domaine du spirituel. La pesanteur qu'elle ressent est relative à sa relation avec Dieu. Comme pour la consolation, s'il y a de la désolation spirituelle, il y a aussi de la désolation non spirituelle. C'est ce que l'on appelle plus communément la dépression, une pesanteur intérieure, un abattement émotionnel et psychologique. Par exemple, si je dois faire face à des problèmes relationnels graves en ce moment dans ma vie. On pourrait aussi parler d'une désolation non spirituelle ressentie sur le plan physique. Si je me couche trop tard pendant trop longtemps, si je brûle toute mon énergie, si je manque de sommeil, je vais finir par ressentir un abattement physique qui se répercutera sur mon énergie vitale. Ce serait un exemple de désolation non spirituelle sur le plan physique, ou tout simplement un épuisement physique. Même si saint Ignace parle de désolation spirituelle, cela ne veut pas dire que la désolation non spirituelle n'a pas d'importance pour la vie spirituelle et pour la relation à Dieu. Il n'y a qu'un pas entre « je suis toujours épuisée, je me sens tellement fatiguée » ou bien « je me sens toujours déprimée, triste, découragée » et « je n'ai pas envie de prier ». Pourquoi est-ce que j'essaye de me mettre au service de Dieu dans ma vocation? À quoi sert mon implication dans la paroisse? Combien de temps encore puis-je continuer à faire tous ces efforts pour vivre selon l'Évangile? Bien sûr, il est normal de se sentir fatigué ou triste ou découragé jusqu'à un certain point. Une mère qui veille son enfant malade plusieurs nuits d'affilée se sentira fatiguée, c'est bien normal. Mais avec un peu de chance, elle pourra récupérer son énergie. Quelles que soient nos circonstances de vie, notre vocation, nous expérimentons un certain niveau de désolation non spirituelle. C'est évident et ça fait partie de la vie. Mais on parle ici de moments où il y en a trop. Trop intense, trop longtemps. Quand ça arrive, non seulement en bon gérant de cette vie que nous avons reçue en don, mais aussi dans l'intérêt de notre vie spirituelle, il faut chercher des solutions pour y remédier. De nombreux problèmes spirituels se règlent quand on s'occupe judicieusement des problèmes non spirituels qui troublent la vie. Illustrons cette idée avec un exemple simple. Vous aimez prier et vous avez une heure privilégiée pour le faire chaque jour. Et si un beau jour, à l'heure de prier, vous vous en sentez tout simplement incapable, eh bien sortez faire de l'exercice, allez faire une promenade, allez courir, bouger, et vous verrez que votre niveau d'énergie va remonter et que le désir de prier que vous aviez de toute façon va lui aussi reprendre de la force. Le problème n'était pas réellement un problème spirituel, mais plutôt un manque d'attention à un besoin non spirituel, dans ce cas-ci le besoin de bouger, de faire de l'exercice. Donc, avant d'aller plus loin, il faut souligner tout de suite qu'il est sage, pour la vitalité de la vie spirituelle, de prendre garde, de ne pas vivre trop de désolation non spirituelle, et de s'en occuper si ça devient le cas. Une vie équilibrée, cet équilibre de l'esprit et du corps cher à saint Benoît, permet de rester complètement ouvert au mouvement intérieur que Dieu fait naître dans l'âme. Cela veut dire prendre suffisamment de repos, ne pas s'épuiser physiquement, éviter les situations anxiogènes autant que possible, et en tout cas ne pas en rajouter. Équilibre, mesure. Il s'agit d'une très ancienne sagesse qui tient dans le proverbe « La vertu consiste en un juste milieu ». La saine mesure entre les extrêmes permet l'épanouissement de la vie spirituelle. Sainte Thérèse d'Avila raconte une anecdote à ce sujet. Celle de cette sœur qui vient lui dire Ma mère, chaque fois que j'essaye de prier, je m'endors, je lutte, mais je n'y arrive pas et je tombe de sommeil. Que devrais-je faire ? Et Sainte Thérèse de lui répondre : Dormez plus. C'est le même principe pour tous les besoins humains. Il est important de les écouter et de les satisfaire avec sagesse pour avoir une vie spirituelle bénie. Même si on fait une distinction entre la désolation spirituelle et la désolation non spirituelle, il n'est pas utile de la pousser trop loin parce que le plus souvent les deux vont de pair, comme c'est aussi le cas d'ailleurs de la consolation, comme on l'a vu la dernière fois. Très souvent, une expérience de désolation non spirituelle devient le terreau sur lequel pousse le sentiment de désolation spirituelle. Pour Alice, par exemple, sa difficulté à s'intégrer dans sa nouvelle paroisse et le découragement qu'elle ressent peuvent probablement être qualifiés de désolation non spirituelle. Mais ils conduisent à ses difficultés dans sa prière et dans sa relation à Dieu. C'est un schéma assez typique, les deux vont généralement ensemble. On verra quand même un peu plus tard que la distinction a son importance. Revenons au texte de la règle. Saint Ignace dit « J'appelle désolation spirituelle le contraire de ce qui a été dit dans la troisième règle. » On pourrait presque s'arrêter là et réécrire la quatrième règle à partir de la troisième, dans laquelle il décrit les expériences de consolation spirituelle, simplement en énonçant le contraire. Si la consolation est une augmentation d'espérance, de foi et de charité, la désolation sera une diminution des trois. Si la consolation est une joie intérieure, la désolation sera une tristesse intérieure, etc. C'est essentiellement ce qu'il écrit. Encore une fois, il ne définit pas la désolation. Il donne seulement une liste d'expériences de désolation, assez longue, pour que nous nous en fassions une bonne idée, afin que, revenons encore une fois aux trois étapes de discernement, afin que, quand nous rencontrons des épisodes de désolation spirituelle, nous soyons en mesure d'en prendre conscience, de les comprendre, c'est-à-dire de les nommer, et d'agir, c'est-à-dire de les rejeter en connaissance de cause. Il liste les ténèbres de l'âme, ces mouvements quand nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, que nous sommes désorientés, que notre vie spirituelle semble n'avoir plus aucun sens. Ces moments pesants où les choses vont mal et pourraient même empirer sans que nous sachions comment nous en sortir. Il parle aussi des troubles de l'âme. Le sentiment de paix a disparu, remplacé par la confusion et l'abattement. J'essaye de prier, mais je suis anxieuse, tourmentée, et je ne trouve plus la paix auprès du Seigneur. Je vais à l'église pour la rencontre d'études bibliques, mais le plaisir que j'avais d'y assister n'est plus là. Je me sens perturbée, troublée. Il mentionne aussi l'inclination vers les choses basses et terrestres. Vous vous souvenez que quand on parlait de la consolation, le mouvement nous élevait, nous attirait, nous appelait vers les choses célestes pour notre salut, les prières, le Saint-Sacrement, le service à Dieu, etc. Ici, c'est exactement le contraire. Il est 9h du soir, les choses ne se sont pas si bien passées cet après-midi, pas comme j'aurais voulu. Il s'agit peut-être d'un problème familial ou sinon professionnel, et je me sens envahie d'une sorte de morosité. 9h, c'est l'heure à laquelle je prends d'habitude un moment pour prier ou lire un ouvrage spirituel pour finir ma journée. Mais aujourd'hui, je n'en ai aucune envie. Je ne sens pas la proximité de Dieu, je suis découragée. C'est clairement de la désolation spirituelle que je ressens. Sur mon bureau, juste là, il y a la souris de mon ordinateur, et tout en moi veut simplement oublier la prière et commencer à surfer sur le web. Et soudain, un clic devient 50, puis 100, et j'atterris là où je ne voulais pas aller. Ce sont de ces moments où on recherche des gratifications charnelles de différentes façons, ou bien des souvenirs de ces gratifications. De ces moments où on ouvre la porte du réfrigérateur encore et encore. De ces moments où on s'écrase devant la télévision et qu'on saute de programme en programme pendant des heures. Une inclination vers les choses basses et terrestres, dit Saint Ignace, dans les moments de désolation. Et si on prend le temps d'y faire vraiment attention, c'est en effet complètement le contraire de ce qui se passe dans les moments de consolation, comme il le dit lui-même. Peut-être que j'ai connu dans le passé de ces périodes de bassesse dont je ne suis pas fière. Et puis quelque chose a changé dans ma vie et je les ai mises de côté. Et non seulement maintenant elles ne m'attirent plus, mais elles sont même désagréables. Mais soudain, dans ces temps de désolation, revient cette attirance, les souvenirs, l'attraction. C'est pour ça qu'il est si important de se rendre compte de ce qui se passe en nous, de le comprendre, de le nommer, de reconnaître la désolation spirituelle, c'est-à-dire le travail de l'ennemi, pour le rejeter avec fermeté. Regardons un exemple concret. Un paroissien s'est inscrit au groupe biblique de son église. Il aimait vraiment ça au début et en recueillait beaucoup de fruits. Mais maintenant, ce n'est pas qu'il n'a plus envie d'y aller, mais il y a un problème avec quelqu'un dans le groupe. Ça peut être qu'il n'aime pas l'animateur, ou bien qu'il y a une personne dans le groupe qui le dérange ou qui le provoque. Est-ce que la règle est applicable quand c'est, comme dans ce cas, un paramètre extérieur qui décourage? En fait, il peut y avoir plusieurs facteurs extérieurs en cause dans une telle situation. Ce que saint Ignace met en évidence dans la règle, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi, au niveau spirituel. Y a-t-il un poids, une lourdeur dans ma vie de foi? Et ce que saint Ignace dit, comme on le verra tout de suite dans la règle suivante, c'est que si la réponse à cette question est oui, c'est-à-dire que oui, il se passe quelque chose de difficile dans ma relation avec Dieu, alors ce n'est pas du tout le moment d'apporter des changements dans mes engagements spirituels. On verra en détail dans la règle numéro 5 comment traverser ces moments de trouble. C'est seulement quand la paix intérieure sera revenue que je pourrai réévaluer mon engagement judicieusement et d'une façon plus féconde en prenant en considération ces facteurs extérieurs. Il se pourrait qu'un autre groupe d'études soit plus utile pour ce paroissien. Mais ce qu'Ignace veut nous faire comprendre, c'est que quand nous sommes en désolation spirituelle, ce n'est pas le moment de prendre des décisions ou d'apporter des changements de ce type. Traversons d'abord cet épisode de désolation, et ensuite nous verrons plus clair et nous pourrons considérer ces facteurs externes et regarder les options. Et on découvre le plus souvent, quand on émerge effectivement de la désolation et qu'on retrouve la paix intérieure, que ces facteurs extérieurs ne dérangent plus tant que ça. Je relis la règle encore une fois pour nous rafraîchir la mémoire. De la désolation spirituelle. J'appelle désolation spirituelle le contraire de ce qui a été dit dans la troisième règle. Les ténèbres et le trouble de l'âme, l'inclination aux choses basses et terrestres, les diverses agitations et tentations qui la portent à la défiance et la laissent sans espérance et sans amour, triste, tiède, paresseuse et comme séparée de son Créateur et Seigneur. Car comme la consolation est opposée à la désolation, les pensées que produit l'une sont nécessairement contraires à celles qui naissent de l'autre. Inclination vers les choses basses et terrestres, sans espérance et sans amour, défiance, manque d'assurance. Voyons un cas concret, celui d'un homme qui a l'habitude de prier pendant une vingtaine de minutes chaque matin. Ce temps de prière lui fait habituellement beaucoup de bien, mais les derniers jours ont été difficiles. Ce matin, après 5 minutes, la prière devient aride, difficile, et tout lui laisse croire que le reste du temps sera pareil, aride et difficile. C'est le manque d'espérance, la défiance dont parle Ignace pour expliquer la désolation spirituelle. On se reconnaît tous là-dedans à un moment ou à un autre. Ignace utilise aussi l'adjectif paresseux. C'est un mot assez fort. Triste, tiède, paresseux, dit-il. J'aime mon groupe d'études bibliques, j'y vais le mercredi soir depuis 3 ans maintenant et je n'ai raté aucune rencontre. Ça illumine ma semaine, ça enrichit ma prière pendant toute la semaine. Mais ces derniers temps, j'ai des soucis. Ça peut être un problème de santé ou financier ou bien encore quelque chose dans la famille. On parle ici de désolation non spirituelle, une préoccupation, de l'anxiété. Et j'ai laissé ce malaise s'infiltrer dans ma prière. J'ai même abandonné quelquefois. J'ai mis un peu de côté ma vie spirituelle. La désolation spirituelle s'est installée. Et maintenant, nous sommes mercredi après-midi, et je me souviens de l'étude biblique ce soir. Et je me sens exactement comme le décrit Ignace, triste, tiède, paresseuse. Je n'ai aucune énergie pour cette rencontre. Je ne veux pas y aller, et j'ai juste envie d'appeler pour dire que je ne pourrai pas participer ce soir. Voilà encore un exemple de cette pesanteur de l'âme qu'on ressent pendant les épisodes de désolation spirituelle. Que dit d'autre saint Ignace? Il parle de ce sentiment d'être séparé de son Créateur et Seigneur. Vous vous souvenez d'Alice? Elle avait l'impression que Dieu l'avait abandonnée. Mais il dit bien « comme séparée de son Créateur et Seigneur ». Comme, parce que ce n'est pas vrai. Dieu est Emmanuel, Dieu est avec nous jusqu'à la fin des temps. Mais dans les ténèbres et la pesanteur de la désolation spirituelle, c'est ce qu'on ressent. J'ai le sentiment que je suis loin de Dieu, et c'est un sentiment très désagréable. C'est peut-être le pire de la désolation spirituelle, parce que notre âme est faite pour Dieu. Saint Augustin le dit si bien, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Et quand on ne sent pas la proximité de Dieu, quand on a l'impression d'être séparé de lui, on connaît la vraie morsure de la désolation spirituelle, la solitude, l'isolement. C'est le mensonge de la désolation qui veut nous faire croire que nous sommes seuls, qu'il n'y a personne d'autre spirituellement. S'il arrive quelque chose, vous allez devoir vous débrouiller tout seul, et vous êtes trop faible pour vous en sortir. C'est le mensonge le plus cruel de la désolation. Et pourtant, ce n'est jamais vrai. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup cet enseignement, parce qu'il nous rend libres. Quand nous sommes capables de repérer et démasquer le mensonge de la désolation, nous libérons notre âme. Si nous y croyons au mensonge de la désolation, nous restons prisonniers, écrasés sous son poids. Nous sommes tous passés par là et il n'y a aucune honte à reconnaître qu'il nous est arrivé de traverser des moments comme ça. Tous, même les saints. Mais beaucoup de choses peuvent changer quand nous en prenons conscience, que nous comprenons ce qui se passe et que nous décidons d'agir, c'est-à-dire de rejeter cette tactique de l'ennemi. Revenons encore à la lettre de Saint Ignace à Teresa Rejadel. Vous vous souvenez, cette religieuse de Barcelone. Il lui écrit « Je voudrais attirer votre attention sur deux leçons que le Seigneur donne ou permet. » Il parle ici de la consolation spirituelle que le Seigneur donne et de la désolation spirituelle que le Seigneur permet. Ignace voit la consolation comme une leçon, mais la désolation spirituelle est aussi pour lui une leçon. Dans les moments de joie qui caractérisent la consolation, nous grandissons effectivement. Nous apprenons sur nous et sur Dieu. Ça peut sembler plus surprenant qu'il considère aussi la désolation comme une leçon. C'est la première indication de la part de Saint Ignace qu'il y a une raison pour que ce Dieu qui nous aime permette que nous traversions des passages de désolation, comme Alice pendant cette année difficile dans sa nouvelle paroisse. C'est la première indication que la désolation appartient aussi à la sagesse divine. Par contre, et Ignace est très clair sur ce point, l'une, il donne, la consolation, et l'autre, il permet. La désolation. Dieu nous donne la consolation spirituelle. Elle est toujours et uniquement une grâce, un don gratuit de Dieu. Mais Dieu ne donne pas la désolation spirituelle. Il laisse l'ennemi nous y entraîner. C'est pourquoi nous pouvons affirmer que Dieu nous exhorte toujours à rejeter la désolation. Car c'est toujours la seule réponse appropriée à ce qui est toujours l'œuvre de l'ennemi. Cette tristesse, cette lourdeur, cette solitude. La spiritualité de Saint Ignace en est une d'espérance et de liberté. Et il nous fait en même temps réaliser que nous ne serons pas toujours dans la consolation et qu'il n'y a aucune honte à ne pas se sentir en permanence dans la consolation. Dieu nous donne de la vivre quand et pour le temps que, dans sa sagesse, il estime que nous avons besoin. En relisant sa vie, chacun d'entre nous peut se laisser envahir par la gratitude devant la fécondité des moments de consolation. Cependant, Paul lui-même, dans les Écritures, nous prévient de ne pas trop nous attacher à ces périodes de consolation, ce que Paul appelle les fruits de l'esprit. Et de nombreux saints, au fil des temps, ont aussi mis en évidence le risque de se laisser prendre par le besoin d'être en permanence dans cet état de grâce. Il faut faire la distinction entre accepter la tendresse du Père à l'œuvre dans la consolation et s'y accrocher. Autant l'accepter est bon et sain, autant s'y accrocher est problématique parce que cette insistance nous empêche de bien servir Dieu quand nous ne l'avons pas. Mère Teresa a souvent perdu le contact avec ce sentiment réconfortant de consolation, mais cela ne l'a pas empêchée de continuer. Nous aussi, nous sommes appelés à continuer. Dans le livre « Viens, sois ma lumière », qui rassemble des écrits de Mère Teresa, on comprend qu'elle a vécu la nuit obscure décrite par saint Jean de la Croix. C'est une expérience de prière, c'est aride, douloureux, difficile, purifiant, mais c'est avant tout une prière. Et comme toujours, c'est Dieu qui donne la prière, toutes les prières. Donc la nuit obscure vient de Dieu, et en cela, comme tout ce qui vient de Dieu, elle doit être acceptée et traversée fidèlement, comme l'a fait Mère Teresa. Et la fécondité incroyable de sa vie est la preuve de la fidélité de sa réponse spirituelle à cette expérience. La désolation spirituelle est quelque chose d'autre. Il s'agit de ces contrariétés quotidiennes et banales qui se dressent dans la vie spirituelle. Pas envie de prier, tristesse et manque d'énergie dans la relation à Dieu. Et ça, ça vient toujours de l'ennemi et ça doit toujours être rejeté. Deux choses complètement différentes. La plupart d'entre nous peut présumer sans hésitation que quand nous ressentons une pesanteur spirituelle, il s'agit de désolation. Très peu d'entre nous seront appelés à connaître la nuit obscure comme l'a vécu Mère Teresa. Alors sans hésitation, sans peur et avec espoir, je peux me dire que Dieu m'appelle à résister, à rejeter et à dépasser ce moment de désolation par sa grâce et la sagesse de l'esprit pour continuer mon chemin à son service. Ignace aborde un dernier point dans la quatrième règle. Il fait remarquer que dans la consolation, cette expérience heureuse et élevante, certaines pensées font leur apparition, et que dans la désolation, ce sont les pensées contraires qui apparaissent, de la même manière que la désolation est le contraire de la consolation. On le voit chez cet homme à la messe qui, en entendant l'homélie, se sent proche de Dieu et décide de prendre cette nouvelle habitude de prier 10 minutes par jour, et qui ensuite, après une conversation difficile à la table familiale, ne sent plus la présence de Dieu et remet en cause sa décision. Pourquoi s'embêter? Ça ne marchera jamais. Il est donc important de savoir que quand les pensées surgissent pendant une période de désolation, il faut les rejeter. Cet homme doit discerner qu'il est en désolation, prendre conscience de son état, comprendre que ses pensées viennent de l'ennemi et agir en les rejetant et en restant fidèle à sa décision de prier. Et les captifs seront libérés.